À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Alain Mabankou, écrivain franco-congolais.
Quatrième épisode, moi aussi je chante l'Amérique. Bonsoir Alain Mabankou.
Bonsoir.
Moi aussi je chante l'Amérique, c'est un vers du poète Langston Hughes, parce que ce soir nous allons parler d'un autre continent en suivant la géographie imposée par votre transhumance entre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. Nous allons parler des États-Unis. Dans Le Monde et mon langage, votre autobiographie via la littérature, vous écrivez « Si le Congo est le lieu du cordon ombilical, la France, la patrie d'adoption de mes rêves, l'Amérique est un coin depuis lequel je regarde les empreintes de mon errance. » C'est en 2002 que vous êtes parti aux États-Unis enseigner la littérature francophone. Racontez-nous comment vous vous êtes retrouvé professeur à l'Université du Michigan.
Ben, disons que j'avais déjà commencé à publier en France. J'avais publié 3 ou 4 romans. Hein, 2 premiers romans aux éditions Présence africaine, puis 2 autres, je crois, aux éditions du Serpent à plumes à l'époque. Je n'étais pas encore aux éditions du Seuil. Et je m'étais retrouvé invité au Congrès international des professeurs de littérature francophone en Tunisie, à Sousse. Donc, il y avait à peu près la plupart des départements de littérature aux États-Unis. Et donc, arrivé là-bas, bon, en tant qu'écrivain invité, je suis intervenu ici et là. Et j'ai eu la chance d'être abordé par la délégation de l'Université du Michigan, qui me proposait d'être un écrivain en résidence dans leur université à Ann Arbor. Ça m'avait amusé au départ. Je leur avais dit, écoutez, j'ai un bon poste en France, je travaille à la Lyonnaise des Eaux, je suis cadre, vous vous rendez compte, j'ai la sécurité sociale. Ils ont dit, non, ne vous en faites pas, vous aurez le même salaire comme si vous ne vous étiez pas déplacé. Et bon, j'ai accepté cette expérience qui était censée durer 1 année. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai commencé à écrire un livre intitulé African Psycho. Mais entre-temps, il manquait un professeur de littérature africaine au département de littérature française, parce que celui qui était là-bas avait démissionné ou devait aller ailleurs. Et donc, je me suis retrouvé comme quelqu'un qui devait boucher le trou en attendant que un vrai professeur soit embauché, nommé, etc. Et donc, pendant toute cette année, j'ai fait un cours d'improvisation pratiquement sur l'introduction aux cultures africaines, l'enfance en Afrique, Kamara Lai, comparé à l'enfance en Europe avec le livre de ma mère de Cohen, les souvenirs de Pagnol, mais aussi de l'autre côté les souvenirs de Kamara Lai dans L'Enfant Noir, les souvenirs de Klimbié, etc. Et ça avait plu beaucoup aux étudiants. Et comme aux États-Unis, il y a souvent des évaluations, les évaluations, semble-t-il, étaient tellement excellentes que les gens disaient, si vous les laissez partir, c'est vraiment, nous, on va quitter l'université. Et voilà comment ils sont venus me proposer. Est-ce que vous voulez pas être assistant ici? Et j'ai accepté d'être professeur assistant, dans l'espoir qu'après 3 ans, on réviserait la note et après 6 ans, je deviendrais associé. Mais entre-temps, en 2006, j'avais reçu le prix Renaudot. Eh ben, Los Angeles, l'Université de Californie a lancé la grande machine pour me dire, si vous venez chez nous, vous serez professeur plein, ce qu'ils appellent full professeur, donc titulaire. Eh ben, je suis allé en Californie, j'ai vu cette sorte de climat. Je me suis dit, mais c'est là que je voudrais vivre. Et voilà, depuis 20 ans, je suis professeur titulaire à l'Université de Californie.
Ça veut dire que l'écrivain que vous étiez et que vous êtes encore, naturellement, s'est aussi pris d'amour pour un nouveau métier qui est l'enseignement?
Oui, moi j'ai pensé que je ne savais pas que je pouvais avoir cette sorte d'inclination à la pédagogie, l'enseignement. Et d'ailleurs, pour moi, c'était intéressant d'être plutôt un écrivain qui est devenu professeur, qu'un professeur qui serait devenu écrivain et qui aurait pu chaque fois donner des leçons aux gens, aux lecteurs. Et donc, ça veut dire que j'étais débarrassé du carcan pédagogique traditionnel où le professeur était assis au-dessus de ses étudiants avec des lunettes en bout du nez comme ça et regardait ses étudiants de haut. Donc moi, j'enseignais comme si je racontais à mes étudiants l'histoire extraordinaire du continent noir. mes cours à cette époque-là étaient comme des discussions collectives. J'arrivais, je prenais un thème, j'avais 4-5 pistes, des bibliographies à gauche et à droite, puis le reste, c'était un exercice improvisé. Je veux dire que l'année suivante, le cours ne serait pas enseigné de la même manière parce que je ne voulais pas que mon cours soit quelque chose qui était coulé sur le marbre, comme ça. On dit, bon, c'est comme ça que je dois enseigner. Chaque année, quand j'enseigne un cours, même si c'est le même cours, mais ça ne sera pas le même discours, ça ne sera pas les mêmes anecdotes, ça ne sera pas la même présentation. Un peu comme si vous étiez au bord de la rivière, vous voyez passer la rivière, vous croyez que c'est la même rivière, mais l'eau coule. La rivière est là, mais l'eau qui est là continue à passer. Donc, c'est cet enthousiasme qui a fait que mon enseignement était devenu presque des cours de sagesse africaine. Puisque je convoquais les Amadou Ampateba, je mettais des documents sonores, je mettais des documents visuels, on discutait les devoirs. J'accompagne toujours un étudiant parce que je ne peux pas tolérer que si j'ai par exemple 60 étudiants, qu'il y ait 10 qui soient largués. Lorsque dans les 60, il y a 40 qui sont bien, je me pose la question si c'est pas moi qui suis mauvais au point de ne pas avoir intéressé les 20 qui restent. Donc, toute mon obsession va être de voir ces 20 étudiants américains à côté, de leur expliquer quels sont vos problèmes. Et ça, ces étudiants apprécient cela. C'est ce qui nous manquait le plus souvent dans l'école traditionnelle en France où le professeur vous dit « Écoutez, c'est dans le livre que j'avais écrit aux éditions Dalloz puisque je faisais le droit. On vous envoyait quelque part. Le professeur, vous le voyez jamais. » Et quand vous le voyez, c'était pour trembler parce que il vous engueulait, il vous donnait la leçon. Et donc là, il faut à la fois être très proche. La proximité n'exclut pas le respect. Donc, on peut être très proche pour donner suffisamment de confiance à l'étudiant qui patine, qui pourrait se dire que je ne suis pas largué et que je peux prendre le train en marche. L'enseignement, c'est de permettre à ceux qui sont restés sur les quais de prendre le prochain train et d'arriver à la même gare.
Il y a l'enseignement à la Bambankou, oui. Et puis il y a la vie quotidienne. Oui. En 2020, vous avez publié Rumeurs d'Amérique, qui oui. est une sorte de carnet de bord quotidien, oui. justement, de votre vie aux États-Unis, de vos impressions. C'est votre autobiographie américaine composite. C'est composé de assaut et à gambade, on pourrait dire, fait de scénettes, de réflexions sur la vie aux États-Unis. Dans l'introduction, me semble-t-il, de ce livre, vous écrivez « Rien n'y fait en Amérique ». Je suis un Africain. C'est la première chose qui frappe quand on ouvre ce recueil oui. de textes.
Oui, parce que de prime abord, on se dirait que c'est un Africain qui va en Amérique, il va retrouver ses frères afro-américains, ils vont se livrer dans une effusion absolue, ils vont pleurer ensemble, les racines viennent retrouver les feuilles qui s'étaient détachées de l'arbre, donc ça sera le grand amour, la reconstitution de l'arbre généalogique. Mais en réalité, on se rend très vite compte aussi que malgré tout ce qu'on nous enseigne sur l'uniformité de l'histoire du peuple noir ou du monde noir, il y a un grand fossé entre l'Africain et les Noirs américains. On le sent très vite et c'est pour ça que je crois que ça c'était une histoire que j'avais racontée dans Le sanglot de l'homme noir où j'avais failli être égorgé par un Noir américain qui me reprochait d'être celui qui venait aux États-Unis prendre le travail des Noirs américains. C'est-à-dire que moi, étant professeur à l'époque à l'Université du Michigan, lui travaillant à la voirie de la ville d'Ann Arbor, c'est-à-dire qu'il se levait à 4 heures du matin pour travailler, ramasser les poubelles de la ville en plein hiver. Dans le Michigan, c'est moins 40 degrés. Donc, au fur et à mesure, il m'appelait souvent Mandingo, c'est-à-dire un mandingue. C'est-à-dire, ça rappelait aussi le film de l'époque qui s'appelait Racine, un téléfilm qui était beaucoup diffusé dans le monde entier, tiré du livre de l'afro-américain Alex Haley, qui un peu retraçait les origines de ce noir américain dont les ancêtres seraient venus du côté de la Gambie et qui auraient été amenés du côté des États-Unis pendant la traite négrière. Et donc, Mandingo, représentait en quelque sorte le résistant, hein, le résistant. D'ailleurs, son nom, c'était Kunta Kinte, le résistant, celui qui résiste à l'esclavage, celui qui résiste à la ségrégation raciale. Et quand il m'appelait Mandingo, c'était plus pour me repousser vers ce qu'il considérait la barbarie africaine. C'est-à-dire qu'entre le noir américain et l'africain, il y a la brousse. Vous, l'Africain, vous venez de la brousse, nous, les Noirs américains, nous sommes américains, même si notre condition n'est pas reconnue sur le sol américain. Et donc, il y avait le reproche selon lequel mes ancêtres africains auraient pactisé avec les Blancs pour vendre les Noirs en Amérique. Et donc, par voie de conséquence, les Africains étaient complices des négriers. Les chefs coutumiers africains avaient participé à l'esclavage. Donc voilà le reproche qu'on me faisait là-dessus. Et qui plus est, j'arrive aux États-Unis, j'ai un travail pratiquement dans les études supérieures. Je ne suis plus ni un petit salarié, mais je suis non même plus la classe moyenne, mais c'est la classe supérieure. Prof d'université aux États-Unis, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est déjà un travail qui vous ouvre toutes les portes, que vous voulez acheter une maison ou tout. Et donc ça, il n'avait pas supporté ça. Et ce jour-là, il voulait en découdre. Surtout qu'il souffrait déjà de la psychose d'avoir été du côté de la guerre d'Irak ou je ne sais pas, il avait fait une des guerres américaines là-bas. Et donc j'avais estimé nécessaire de d'écrire cette histoire pour démêler un peu les relations entre les Noirs africains et les Noirs américains. Mais quand on rentre dans ce livre « Rumeurs d'Amérique », c'est encore plus ample. Ça ne se situe plus seulement dans le côté américain Noirs et Africains, là rentrent les communautés asiatiques, là rentrent aussi les conceptions, les mythes de l'Afrique qui sont comparés avec les mythes des États-Unis. Donc pour moi, ça fait partie effectivement d'un début d'autobiographie américaine. L'expression, je l'emprunte à mon ami Daniel Laferrière. Donc j'essaye de montrer aussi que un Africain aux États-Unis parfois n'est pas si souvent perdu qu'on le croit, et son meilleur ami n'est pas forcément le noir américain. J'habite avec, dans l'immeuble, on est 18, et les 17 sont coréens, et je suis le seul africain dans l'immeuble. Ça me fait une expérience extraordinaire de vivre à Koreatown, dans un immeuble conçu par les Coréens, et les Coréens avaient accepté que j'achète un appartement dedans, donc le seul. Et ils sont fiers de cette sorte de mixité, même s'il y a une seule personne pour eux. Quand on se retrouve au conseil de syndic et que je suis seul, au départ, on pensait, le premier jour, on croyait que j'étais celui qui était venu livrer les pizzas, ce qui n'était pas au courant. Ils ont commencé la réunion, arrive un black qui ouvre la porte, et le chef du syndic qui dit, mais on n'a pas commencé la réunion, que les pizzas sont déjà arrivées. Donc, après on dit, non, attention, c'est le professeur Mabankou, il est à UCLA. Et j'étais devenu l'ami de tout le monde. On mangeait, chaque fois les Coréens préparent, je mange, et chaque fois je prépare un peu une cuisine, un plat africain, eh ben, j'en prévois pour tout le monde. Souvent, je le fais la veille de notre réunion de copropriété, et le lendemain, j'amène la nourriture, et ils sont très contents. Voilà un peu une famille recomposée qui se crée là-bas.
En Californie, qui est sans doute un État un peu à part, un État laboratoire politique, un État où vous avez vu d'ailleurs toutes les nuances, en passant de Santa Monica à majorité blanche à Downtown LA, vous écrivez que 70% de la population justement sont des minorités, donc on voit bien la différence qu'il peut y avoir entre tel ou tel État, et même au sein même d'un État, comment les choses sont complexes. Est-ce que vous diriez à la main Bankou quand en 20 ans maintenant, puisque vous avez le recul de 20 années de vie aux États-Unis, en particulier là-bas, 15 ans, disons, en Californie, les choses ont changé dans un bon sens ou les choses ont régressé du point de vue de la vie en communauté, de la vie collective, de la société américaine, disons.
Ben, lorsque j'étais arrivé, j'assistais à une sorte de révolution, petit à petit. Je suis arrivé au début des années 2000, je crois 2002, 2003, j'étais là-bas. Donc j'ai dû voir les présidences de Bush, le fils qui arrivait à terme, puis l'arrivée, les deux mandats de Barack Obama, donc j'étais là. Donc l'effusion, et presque même la joie était là de se dire que nous étions dans un changement de mœurs, nous étions dans une Amérique dont le visage changeait. Mais en même temps, cette euphorie avait disparu lorsqu'on avait constaté que la présence d'Obama avait poussé les Américains à aller vers une crispation de leur rapport et une sorte de nécessité dangereuse de retourner vers peut-être la recomposition de la photographie américaine, c'est-à-dire que la photo devrait être en noir et blanc, et c'est les blancs qui devaient commander. Donc la montée du racisme, la remontée du racisme, parce qu'en réalité, l'Amérique a toujours couvé ses tares de discrimination et de racisme, donc la résurgence de ce racisme qui devenait ordinaire, et puis en même temps aussi la prolifération des mouvements suprémacistes blancs dans le pays, la valorisation des sectes dangereuses comme les Ku Klux Klan, etc. Et puis la figure de Trump qui petit à petit s'imposait en Amérique pour donner au pays non pas une vision du futur, mais une vision de la nostalgie. Hein? Donc, leur slogan de « Make America Great Again », voilà, « Rendre à l'Amérique sa grandeur d'autrefois », si vous voyez un pays qui n'a que pour programme la grandeur, dites-vous qu'il manque un véritable projet. La grandeur d'un pays n'est pas un projet, puisque la grandeur d'un pays, c'est le bonheur du peuple, dans ce sens. Donc, je pense qu'on a eu l'espérance avec Obama, mais en même temps, l'arrivée d'Obama ne pouvait pas changer les choses puisque la politique reste la même. Quelle que soit la couleur du président, noir ou blanc, les problèmes n'ont pas de couleur. Les problèmes, c'est la population. Donc Obama n'était pas le président des Noirs américains venu pour sauver la Noire américaine. Obama était un président qui appliquait une politique américaine pour tous les Américains, y compris les Blancs. Parce qu'on pensait, bah là, c'est notre tour, les Blancs, vous allez retourner en Europe. Non, 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 non. C'était une politique générale et donc ça a donné une frustration auprès des Noirs qui dit, il n'a rien fait pour les Noirs. Du côté des Blancs, on dit, ce président n'était pas compétent, donc nous devons retrouver une vraie Amérique. Et c'est là, par cette sorte de couloir, qu'est apparu Donald Trump, dont j'ai regardé la présidence avec un certain dépit, hein, parce que c'était vraiment la honte totale de l'Amérique dans ce sens où on n'avait plus nécessairement l'idée qu'on se faisait de l'Amérique d'autrefois avec une politique quand même digne, quel que soit des républicains ou des démocrates, mais là on avait quelqu'un qui n'avait aucun respect du costume présidentiel qu'il était censé porter.
Alain Mabankou, malgré tout, là je m'adresse à l'écrivain que vous êtes, est-ce que Donald Trump n'est pas un parfait personnage de roman? Est-ce qu'il n'est pas une source d'inspiration pour le romancier que vous êtes?
Il est une source d'inspiration du roman. En même temps, c'est difficile d'écrire le roman de Donald Trump parce que lui-même, il le fait très bien. Parce que Donald Trump avait toujours pensé, il continue à le penser, qu'il y a deux mondes. Le monde de la fiction et le monde de la réalité. Et dans le monde de la réalité, c'est l'exercice concret du pouvoir, la résolution des problèmes des individus. Et chaque fois que Donald Trump avait des problèmes avec la réalité, il s'est réfugié dans la fiction. Il était presque plus à l'aise dans la fiction, où il pouvait dire des énormités. Et nous, dans la réalité, on poussait des cris d'horreur. Mais lui, il était dans sa bulle à l'intérieur de la fiction. Donc à lui-même, il réunit à la fois la réalité et la fiction à tel point que nous autres qui regardions les spectacles, on ne sait plus dans quel monde nous sommes. C'est un véritable personnage de roman, mais c'est un roman difficile à écrire parce que le personnage lui-même, il est à la fois écrivain, narrateur, metteur en scène et peut-être dictateur éternel.
Dans chacune de ces émissions que nous faisons ensemble, Alain Babancou, nous mêlons littérature et politique,
oui.
En suivant vos écrits, en suivant aussi votre biographie. À la fin de son poème « Moi aussi je chante l'Amérique », Langston Hughes écrit « Moi aussi je suis l'Amérique
oui. ».
Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que vous êtes devenu américain avec le temps, ou est-ce que les couches se superposent et vous vous sentez citoyen du monde ?
Je ne pourrais jamais dire que je serais devenu américain, parce que je suis d'abord un Congolais qui puise dans l'arrière-pays les éléments de la vie, de la quiétude et de la sagesse. Et puis, ma culture congolaise a été épaulée par la découverte de la richesse culturelle aussi du monde européen, occidental, et il m'est difficile de rentrer dans cette Amérique parce que c'est quoi l'âme américaine ? C'est quoi l'esprit américain ? L'Amérique est un continent de peuplement. Les gens sont venus de partout pour créer cette nation ou bien pour être obligés de coexister. Donc, nous sommes dans une nation où il y a toujours les Coréens ou leur Koreatown, les Iraniens ou leur Little Persia, les Japonais ont Little Tokyo, les Chinois ont leur Chinatown, les Noirs sont du côté de Compton. On vit toujours dans des groupuscules. Comment ferais-je, par exemple, pour entrer dans l'imaginaire de ces Iraniens, dans l'imaginaire de ces Indiens, dans la mesure où on ne reconnaît pas un socle qui ferait peut-être le génie en tant que tel américain. Le génie américain a été rapporté de partout. Les Einstein, les talents même américains sont venus de partout. Einstein, Yourcenar et beaucoup d'autres qui ont fait le cinéma d'Hollywood grâce aux Italiens, ça continue. Scorsese, les DiCaprio, les Coppola. Donc tout cela fait que l'Amérique est une nation qui a gardé l'esprit de la ruée vers l'or. Les gens viennent de partout dans l'espoir de se dire que c'est le territoire où tout est possible. Alors que dans l'esprit de beaucoup d'immigrés, par exemple africains, maintenant de plus en plus, on dit l'Europe, ce n'est pas un territoire où tout serait possible, parce que c'est verrouillé. Donc l'Amérique laisse encore cette sorte de liberté. Et c'est ça que je recherche dans le territoire américain. C'est la liberté de pouvoir exposer ce que j'ai comme imaginaire et que cet imaginaire soit reconnu ad valorem, c'est-à-dire à sa juste valeur.
Et est-ce que c'est cet esprit que vous trouvez auprès de certains écrivains ?
Oui.
Je pense à James Baldwin,
oui.
Je pense à Ernst Gaines,
oui.
Moins connu en
oui,
France.
Oui, oui.
James Baldwin, vous lui avez consacré un livre à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort, « Lettre à Jimmy
oui, » oui.
en 2007. Vous êtes très proche dans l'esprit de James Baldwin. Je n'en cite que deux, mais il y en a mille autres, évidemment, dans votre panthéon littéraire. Mais...
Oui, je pense que c'est cet esprit-là qu'on retrouve dans la littérature américaine, afro-américaine aussi, qui m'a séduit, donc que ce soit les Langston Hughes qu'on a cité tout à l'heure, mais les Chester Himes, les Richard White, tous ces écrivains qui non seulement ont été des écrivains, mais qui ont participé aussi à l'émancipation de la population noire aux États-Unis.
Ce qu'on a appelé la Harlem Renaissance.
Voilà, qui le mouvement qui nous aura inspiré, nous autres Africains, à être fiers de nous. Ce que je reconnais à l'Amérique, c'est d'avoir dit aux Africains, ne vous considérez pas inférieurs, parce que être noir ne devrait pas être une condamnation, mais ça devait être une sorte de fierté à laquelle il faudra rajouter le talent. Voilà.
Je voudrais, pour terminer cette émission à la Babancou, qu'on ouvre un dernier chapitre dans Rumeurs d'Amérique. C'est d'ailleurs l'un des chapitres les plus longs.
Mmh.
Il s'intitule « Un sapeur en Amérique ».
Oui.
Et vous y faites la comparaison de l'habillement entre le Congo et les États-Unis. Le Congo, pays de la sape,
oui.
La société des ambianceurs et personnes élégantes. Déjà, rappelez-nous ce qu'est la SAP, quelle est son origine, quel est le sens.
Oui. Non, le sens, c'est la SAP, c'est S-A-P-E, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Si j'avais parlé de ça dans Rumeurs d'Amérique, c'était tout simplement parce que pendant mes cours, les étudiants étaient toujours amusés de savoir pourquoi je tenais à mes tenues vestimentaires très colorées. Je prenais un soin à pouvoir faire, comme disent les Congolais, des réglages vestimentaires à chaque cours, à chaque classe. Et c'est là que je m'étais dit, eh ben, je leur ferai un cours sur la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Je leur expliquerai ce mouvement social, voire même politique, qui a commencé du côté du Congo-Brazzaville, dans le quartier Bas-Congo, ça c'est dans les années 70, et qui, aux yeux des Congolais, était un moyen d'expliquer au gouvernement que, même si sur le plan économique on avait tout verrouillé, mais le peuple exprimerait sa liberté, son indépendance, par la manière avec laquelle il utiliserait son corps. Le corps sert d'expression sociale. Si, économiquement, nous sommes enchaînés, mais la liberté de mon corps fait que je ferai de l'attraction, je serai toujours propre, je serai toujours quelqu'un qui entre dans ce qu'ils appellent la religion du tissu. Un sapeur, c'est celui qui croit que l'habillement est aussi important que la nourriture que nous mangeons. L'habillement est essentiel et que la meilleure présentation qu'un être humain puisse faire à l'autre, c'est de toujours être en bon habillement.
Et vous en êtes un éminent représentant. Vous portiez, comme on le trouve dans vos livres, un pantalon violet à pattes d'éléphant hier, par exemple, avec une belle harmonie avec le pull qui était mauve, si je ne m'abuse. Et puis on retrouve dans un certain nombre de vos ouvrages les salamandères aux pieds, les lachines en colère, les chaussures tirées d'Opération Dragon. En mars 2016, à Lama Bankou, vous étiez en habit de lumière, veste moirée, velours bleu et nœud papillon, pour votre leçon inaugurale au Collège de France. Nous verrons cela demain avec vous. Bonne soirée.
Merci.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Stéphane Foulon, réalisation Laure-Hélène Planchet, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.